Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, le podcast qui décortique l'amour avec un grand A. De la première rencontre aux assiettes envoyées à la figure, en passant par les retrouvailles, l'emménagement, le premier je t'aime, le mariage et pourquoi pas un joli bébé. Durant une petite heure, un couple qui nous ressemble nous dévoile au travers de ses petits secrets, conseils, erreurs ou traits d'audace, ce qui fait que l'on tombe amoureux ou que l'on reste ensemble pour toute la vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine et Fabrice, alias Kat et Fab. Vous connaissez peut-être Fab d'ailleurs en tant que fondateur du magazine féminin Mademoiselle et hôte du podcast Histoire de Daron, qui parle d'histoire de papa. Kat s'accompagne depuis 23 ans maintenant et quant à elle à la tête d'une agence immobilière et a aussi activement participé à la réussite de Mademoiselle avec un soutien indéfectible et infatigable à Fab. Kat et Fab se connaissent depuis le lycée et on peut d'ailleurs remercier au passage le frère de Fab pour cette belle rencontre et depuis ils ne se sont plus jamais quittés. Bon, ils m'ont avoué au cours du podcast s'être quand même séparés une quinzaine de jours à l'âge de 18 ans quand ils étaient à la fac, mais on va dire que ça ne compte pas vraiment sur une période de 23 ans. Et avec Kat et Fab, on a vraiment parlé de tout, des débuts fastidieux de Fab en drague, de la maniaquerie ménagère de Kat, de leurs conseils pour se répartir les rôles quand on emménage ensemble, d'une première demande en mariage ratée, puis de la deuxième, mijotée pendant 10 ans par Fab pour mettre le paquet, du fait d'avoir des enfants, alors que Fab n'en avait pas tellement envie à la base, enfin, d'une crise de couple sans précédent qu'ils viennent de surmonter. J'ai adoré interviewer Kat et Fab, un couple inspirant par sa justesse, par ses différences, par son respect des particularités de l'autre. Une vraie leçon. Je suis Pauline Léniaud et ce podcast vous est proposé, avec amour bien sûr, par la maison de joaillerie Gémio. Eh ben bonjour Kat et bonjour Fab.
Bonjour Pauline.
Salut Pauline.
Je suis super contente de vous avoir sur Chalalove, bienvenue.
Merci.
Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez le concept de Chalalove, a priori oui si vous êtes avec nous, mais donc on va parler d'amour, on va parler de vous, de votre relation, si vous l'acceptez, de vos petits secrets aussi, et surtout j'aimerais bien avoir aussi vos conseils, vos trucs et vos astuces qui expliquent que vous êtes mariés, comme vous me l'avez dit juste avant qu'on commence, depuis fort longtemps. Donc voilà, est-ce que vous êtes partant?
On est prêt.
Top, super.
Let's Alors,
je sens la motivation de faire
ça. Non, pas du tout.
Alors ma première question du coup, c'est toujours un peu la même mais j'aime bien la poser, c'est tout simplement comment est-ce que vous êtes rencontrés? Est-ce que vous pourriez me raconter ça?
Tu racontes?
Non, ou... c'est toi qui racontes.
Ok, c'est moi. Alors ça remonte à il y a donc un petit moment puisque ça fait 23 ans qu'on est ensemble. On était donc jeunes, hein, puisqu'on est toujours jeunes.
Bien sûr.
On était tous les deux lycéens. Et il s'avère qu'on faisait du sport d'équipe, donc une équipe de volley féminine rencontre une équipe de basket masculine, mmh. Et les mélanges se font, tout simplement, on va dire.
Mmh. C'est à peu près ça. Ça a beaucoup tourné au sein des deux équipes à l'adolescence à un moment.
Et alors, comment s'est fait cette rencontre? Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu qui a eu le crush en premier? Comment ça s'est passé, quoi?
Alors, Kat, elle sortait avec un de mes potes.
Tout à fait, de l'équipe,
voilà.
Forcément.
Et il était extrêmement... Alors, si tu nous écoutes, il était extrêmement nul avec elle, vraiment. tu sais, c'est le genre d'ado qui parle mal à sa copine, tu vois. T'as connu ou pas?
J'ai pas eu, mais j'ai vu, ouais.
Voilà. Et en fait, moi, je me disais, mais c'est fou à quel point cette fille, elle est cool. Et lui, il lui parle trop mal. Mm. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, en vrai, peut-être que si elle était avec un mec cool, par exemple moi, tu vois, ça pourrait aller.
Par exemple.
Je sais pas comment tu... C'est comme ça, non? Ça s'est passé toi, de ton
toi,
côté,
dans ta tête,
c'est
comme ça.
Oui,
moi, je trouvais pas forcément qu'il me parlait mal, mais j'étais in love, donc ouais. Je le voyais pas. Par contre, il était pas forcément à la hauteur de ce que j'attendais, on va dire, ça c'est sûr. Et après, le travail suivant, c'est quand même ton frère qui l'a fait.
Oui, mais...
Son frère a joué les entremetteurs, puisqu'il
D'accord.
était dans ma classe à l'époque.
Donc tu voyais, t'avais des visées, mais t'as pas osé franchir le pas.
Mais j'ai
quand
jamais
même.
Dit à mon frère quoi que ce soit.
Non, mais il a senti trouvé le truc. Seul, ouais. Je pense.
C'est impressionnant.
C'était bizarre.
Et donc il a fait du lobbying auprès de moi, et surtout à la soirée où on s'est mis ensemble. Je pense qu'il a passé la soirée assis à côté de moi à me répéter « Tu vas sortir avec mon frère, tu vas sortir avec mon
donc
frère !»
C'est pratique en fait, tu n'as jamais dragué finalement, tu as eu quelqu'un qui l'a fait pour toi.
Je savais pas.
C'est un peu ça.
j'ai appris ça après, et j'étais « Ok, bon, très bien. »
C'est top.
Voilà. Oui, c'était un peu ça, notre rencontre.
Très bien. Bah écoutez, parfait. Et du coup, ça c'était il y a combien de temps? Vous disiez 23 ans.
1995, hein, dites-moi.
Très bien, ma bonne dame, parfait. Et alors, donc, vous mettez ensemble, vous commencez à avoir une relation, et à un moment donné, j'imagine qu'il y a un premier je t'aime qui arrive, ou un moment où vous avez commencé à vous dire dans votre tête, ça y est, je suis en train de tomber amoureux. Déjà, est-ce que vous pouvez me raconter en fait... Bah, à qui c'est arrivé en premier, et puis voilà, juste que vous me racontiez un petit peu comment ça s'est passé.
Alors, c'est moi qui raconte. Alors, je ne sais pas s'il était déjà amoureux, mais le premier je t'aime, moins de 24 heures après le premier bisou, j'avoue que j'ai eu un peu de mal sur le moment, j'étais pas prête.
Moi j'étais, je savais, moi c'était bon.
Moi j'étais pas prête, droit dans donc ses bottes. J'ai souri. J'ai
et t'as pas eu peur de le dire, enfin c'est quand même un cap important dans une relation.
Non, parce que pour
relation.
Moi c'était énorme, enfin en plus j'étais ado quoi, tu vois, donc... Kat, c'était ma première copine, ou en tout cas dans ma tête, c'était un peu sérieux. Et donc voilà, je me suis pas posé de questions.
Moi, ça m'a fait un peu peur sur le coup. J'ai donc pas répondu de la manière attendue.
Oui, mais
j'ai dû dire merci. Je
suis romantique, moi. Enfin, laissez-moi. Je jugez pas, d'accord.
Donc, je t'aime, merci. Voilà.
Ça ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit merci.
Je pense. Ouais.
Et toi, justement, le merci, tu l'as vécu comme un merci. T'étais content ou tu l'as vécu comme un peu un affront?
Non. Je mets pas d'ego, moi, dans mes histoires en général, donc pas de problème.
C'était, ouais, okay, c'était naturel, mais moi, c'était un peu tôt, donc voilà, c'est tout, c'est venu un peu après.
et toi, Kat, à l'inverse, ça t'a fait peur, justement, quand il t'a dit ça tout de suite, ou t'as trouvé ça mignon et finalement,
allez,
t'étais contente?
C'est le moment,
ça
de
m'a fait un peu peur, quand
intime.
Même. Ça m'a fait un peu peur sur le coup. Ah bon, tu crois?
Ouais, tout à fait.
Alors, un an après qu'on se soit mis ensemble, on est parti l'été ensemble, en Vendée, dans le camping à côté de là où les parents de Fab partaient. Mm-hmm. Et... parce qu'on trouvait ça marrant à l'époque, et puis on a partagé un bon moment ensemble. J'avais ramené mon journal intime de l'époque.
D'accord.
Où on s'est rencontrés un an avant. Et donc, ce qui l'a beaucoup fait rire et qui reste une bonne blague entre nous, on va dire, en tout cas, tu l'as pas mal pris, et, voilà. C'est que j'avais noté, je sors avec Fab, il est mignon, mais pas hyper craquant.
Voilà, point. Voilà.
Mais bon...
C'était terminé.
En même temps, l'acné était passé par là, et tous les deux, on était quand même assez bien pourvus.
Oui, peut-être que Kat était aussi pas au top encore
non,
à l'époque.
Pense. Enfin, alors, je sais pas si je l'ai été après, mais...
Si, elle était jolie comme tout, et... En fait, elle se foutait de ma gueule. Là où le karma l'a rattrapée, c'est qu'elle s'est vraiment foutue de ma gueule pendant 6 mois parce que j'avais de l'acné. Mais mon acné a vraiment duré 6 mois.
C'est vrai.
Et après, il a disparu. Et alors que toi?
Moi, ça dure encore. J'en ai encore un petit peu là.
Non,
ça a duré longtemps, en tout cas.
Jusqu'à
Jusqu'à ce que je sois enceinte, je pense, voilà. À peu près. Ouais, donc c'est très long, l'acné chez certaines femmes, on va dire.
C'est vrai, je sais qu'on peut en avoir assez tardivement. Et c'est...
Après, ça ne me défigurait pas quand même, sinon tu serais partie en courant, je pense.
Non, même pas, je trouvais bien comme t'étais.
D'accord, ok.
Bonne réponse.
Parfait.
Et donc très bien, le premier je t'aime, vous commencez, comment vous aviez abordé un peu la relation à ce moment-là? En fait, vous réfléchissiez, enfin, vous étiez tellement jeune, je me dis, est-ce que vous êtes... Peut-être c'est indiscret ce que je vais poser comme question, mais dit est-ce qu'on va rester ensemble tout le temps? Est-ce qu'on veut faire une pause, aller voir ailleurs aussi? Enfin, vous étiez limite le premier l'un pour l'autre copain ou copine. Donc j'imagine que c'était pas évident
toi,
non plus.
Hein.
Pas moi.
Kat était précoce.
Kat,
oui, Kat avait déjà.
Ouais, mais bon, t'avais pas non plus vécu. Tu vois, vécu, j'imagine, des histoires très très longues aussi.
Oh,
peut-être
bah, quand même. Enfin, j'étais restée quand même un an avec la même personne et on avait déjà.
Vous aviez déjà forniqué, hein.
Oui,
je pense qu'il faut le dire aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire les choses. Hein. Je n'étais pas ton premier garçon. Hein,
tout à fait, mais voilà, au moins j'avais l'expérience comme ça qui nous a permis...
mais comment après, ça s'est passé après?
Oui, après, je pense qu'à cet âge-là, on était lycéens tous les deux, effectivement, on ne faisait pas de plan sur la comète. En plus, on voyait bien que dans nos groupes respectifs, ça allait, ça venait,
ouais,
ça
sûr.
S'est changé, entre
c'est
guillemets.
Ça.
Enfin, c'était assez, voilà, on était jeunes, très jeunes. Donc on a pris les choses comme elles venaient et puis ça a continué progressivement, en fait ça s'est fait progressivement, il y a pas de... Et puis après oui, à un moment donné on se dit quand ça fait quelques années, on se dit bah oui maintenant c'est
sérieux.
Bon quoi, voilà.
Oui c'est vrai, on s'est séparés une fois ou deux, non?
Ouais,
pendant pas très longtemps.
Une fois quand t'étais à la fac, parce qu'effectivement il fallait aller voir un peu d'autres choses, mais ça n'a pas duré longtemps.
Non, c'était ouais.
Une semaine,
15 jours, j'aurais dit.
Ouais,
c'est très court.
Oui, c'est court.
C'était court. Mais en fait, on a que 2 ans d'écart, mais il y a une période où on était vraiment, on n'avait pas du tout la même vie, parce que moi, j'ai commencé à bosser assez tôt. Donc, je suis allé en maîtrise à l'époque, bac plus 4, et assez rapidement, en fait, je suis rentré dans le milieu du boulot, et Kat était partie, elle, pour faire des longues études pour devenir magistrate. Et c'est vrai que donc, moi, quand je suis sorti de bac plus 4, toi, tu étais encore en plein dans tes études et tu étais parti pour rester très longtemps dans tes études.
Mais on a toujours été en décalé, même s'il n'y a pas beaucoup d'écart. Parce que quand on s'est rencontrés, tu passais le bac. T'as tout de suite été à la fac. Moi, j'étais encore au lycée pour 2 ans, donc c'est quand même pas pareil. T'as commencé à bosser, t'avais 20 ans. T'étais en stage et puis ils t'ont embauché tout de suite. T'as fini tes études en même temps que tu bossais. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Moi, je suis restée à la fac, effectivement, plus de 5 ans. C'est vrai qu'on a... Mais bon, après, c'est des rythmes différents, avec des hauts et des bas, mais ça a toujours fonctionné.
Moi, il y a quand même eu, moi, en tout cas de mon côté, une période où je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on va pas se séparer par la force des choses, juste parce qu'on n'est pas du tout sur la même, sur le même rythme de vie. En plus, toi, t'as eu, pendant une année, tu étais parti pour faire une prépa à Bordeaux. Donc, 6 mois. Donc, on a testé la distance qu'on n'avait jamais testée. Et
c'était pas facile, ouais.
T'avais quel âge ? Je sais pas, ça faisait déjà 4-5 ans qu'on était ensemble, si tu veux.
Ah, quand même. Et ouais, plus.
Ah ouais ?
Bah oui, puisque...
Parce qu'en fait, on a acheté un appart ensemble.
J'avais déjà pas que plus 4.
Alors, j'allais vous demander l'emménagement, quand est-ce que ça avait eu lieu, du
coup ? Justement, ça a été, très long, entre guillemets, puisque... financièrement, c'était intéressant d'acheter un appart parce que c'est toujours intéressant d'acheter un appart et qu'on pouvait le faire. Mais moi, j'étais encore étudiante.
Alors, on pouvait le faire. Tes parents avaient...
Alors, moi, j'avais eu une donation de mes parents et toi, tu bossais. Donc, toi, tu pouvais financer ta partie sous forme de prêt. Moi, j'étais encore étudiante. Mais comme on savait que j'allais partir pendant 6 mois, 1 an, on ne voulait pas s'installer définitivement ensemble pour ne pas trop souffrir. Enfin, ça, c'était un peu ma vision des choses que tu as acceptée à l'époque. Oui. Mais donc, on était la moitié de la semaine ensemble. L'autre moitié, j'étais encore chez mes parents et je bossais à fond, du coup, pour rattraper ce que je faisais pas quand on était à deux.
Et avant ça, j'avais été en coloc, en fait, pendant un an.
Et avant ça, effectivement, tu étais en coloc. Et pareil, on se voyait, mais pas... Enfin, j'habitais pas là, moi, donc
Tu venais
c'était
là,
très progressif. Après, je suis partie, donc 6 mois à Bordeaux. Par contre, quand je suis revenue, là, effectivement, on s'est installé chez nous, puisque c'était déjà chez nous.
Donc ouais, en fait, on a acheté cet appart sans vraiment se dire... parce qu'à la base, t'étais quand même partie pour faire des études de magistrat.
J'étais partie pour rester sur Bordeaux plus longtemps, effectivement.
Et t'as fini par rater le concours la première année...
La première année, j'étais encore à Lille.
Voilà.
Et je l'ai retenté une deuxième fois et je l'ai raté aussi. Et donc, du coup, je suis rentrée à Lille pour faire un bac plus 5. Là, c'était plus simple.
Voilà. Donc, c'est vrai que c'était un peu un pari de notre côté d'acheter ce.
Mais en fait, j'avoue, moi, je trouve ça hyper audacieux. Enfin,
avec le recul,
vous êtes quand même super jeune.
On s'en
tout,
est pas rendu compte.
C'est ça. Non, et puis, en même temps, ça faisait déjà quand même, effectivement, 6-7 ans qu'on était ensemble. Ça nous semblait la continuité logique. Et après, ça reste un bien matériel. C'est
Et à ce moment-là, vous aviez discuté entre vous de... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais si jamais on sépare ou si jamais, je ne sais pas, l'un d'entre nous ne veut pas habiter dans cet appartement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est quand même tellement engageant quand il pense.
On n'en a pas discuté.
C'est vachement moins engageant que de faire des enfants, par exemple.
C'est vrai.
On parlera après.
Ouais.
Mais...
Effectivement, ça n'a rien à voir. On n'en avait pas discuté. Après, moi, j'y avais pensé, moi, de mon côté. Je me disais, c'est tout, ça se revend. Enfin, voilà, ça reste du matériel.
D'accord.
Effectivement. Donc, bon.
Ouais, mais
c'était pas perdu. Et puis c'était le côté payer un loyer alors que toi tu pouvais faire un prêt et que moi j'avais la capacité d'apporter.
Non, mais je comprends complètement en fait que ça soit rationnellement plus intelligent de le faire. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, notamment au niveau relationnel, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on fait ce podcast, c'est on peur un peu de franchir des caps.
Oui.
Là, je trouve que c'est super audacieux.
Ah,
pour
on
des
l'a
jeunes.
Franchi avant même de.
Ouais, c'est ça.
On n'a pas vraiment emménagé tout de suite dedans tous les deux en plus. Donc,
Ah ouais, c'était bizarre.
Mais pour le coup,
on s'est jamais dit oh là là c'est un risque qu'on prend.
Non.
C'est juste c'était naturel pour nous.
Non, puis à ce moment-là on n'avait plus de doute. Enfin moi j'avais pas de doute du tout. Peut-être pas assez à la
sur
limite,
votre relation tu veux dire.
Ouais. Ouais.
Oui je pense que vraiment.
C'était acquis quoi.
Non mais on était un peu. Non mais je pense qu'on était un peu jeune et un peu couillon aussi parce que on se rendait pas compte de si vraiment t'étais parti pour faire tes 7 ans à Bordeaux ou t'es.
Non il y en aurait pas eu 7, il y en aurait eu 2,5.
Voilà.
Bon.
Oui,
on sait pas.
On sait pas ce que ça aurait pu donner.
En même temps, toi, t'avais un boulot stable à Lille, tu serais resté là-bas. Donc,
c'est vrai.
C'est tout. La distance aurait été plus longue dans
ça
le temps.
Ça aurait fonctionné.
Ouais.
Et donc, vous finissez par emménager dans cet appartement.
Tout à fait.
Ouais.
Et alors, question, qu'est-ce que ça fait quand finalement, comme vous, on n'a jamais emménagé ensemble ? Comment ça se passe au début ? Est-ce qu'il y a une période d'ajustement ? Est-ce que vous engueulez ? Est-ce qu'au contraire, ça se passe hyper fluide, hyper naturel ? Est-ce que même vous avez des conseils à donner sur comment faire pour faire ça en douceur ?
Alors, c'est pas fluide, parce que je pense que ça peut pas être fluide à 100%. Après, on s'est toujours super bien entendu, ça fonctionne bien. Mais je suis très exigeante sur le côté, comment dire, rangement, ménage, tout ça. Pas
là,
dire chiante.
On a assez envie de regarder la tête de Fab qui...
Voilà. Et il est arrivé, et je n'aurais jamais dû faire ça. Quand j'étais à Bordeaux, je rentrais donc toutes les 3 semaines. On avait mis notre petit truc en place. Il venait toutes les 3 semaines, je revenais toutes les 3 semaines, et un week-end, on ne se voyait pas. Et donc je rentre et il me dit dans la voiture, je crois, tu vas voir, j'ai tout rangé, mais super fière de lui.
Bah ouais.
Donc bon, impeccable.
Je m'étais vraiment organisée pour rentrer plus tôt du boulot, pour tout bien faire et tout, vraiment.
Et donc je rentre dans l'appart. Ah bah c'était pas rangé comme moi, j'imaginais que ça serait rangé. Et donc du coup j'ai critiqué. Et c'était une erreur.
T'as pas critiqué, t'as dit. C'est ça que t'appelles ranger.
Ah oui.
Voilà. Ce qui était pour moi la première et la dernière fois, enfin pas la première, mais en tout cas la dernière fois que j'allais passer, faire le ménage, parce
en
que
tout
je
cas,
me
oui,
suis dit,
t'allais faire l'effort de.
Si tu fais ça, ouais. En vrai, si tu.
Ça sera jamais bien.
Voilà, je vais m'en passer.
D'accord.
Mais depuis, j'ai beaucoup progressé et maintenant je vois bien que c'est pas parce que c'est pas assez bien pour moi que c'est pas bien pour les gens.
Tu dis vraiment ça comme une.
Oui, c'est un travail sur moi-même.
Oui, c'est ça. J'allais dire, tu dis vraiment ça comme une ancienne addict à la coke, quoi. Depuis, j'ai beaucoup
progressé. Oui, non, mais on peut avoir des addictions à tout.
Bon, alors,
mais
du coup,
je deviens
vois...
moins chiante là-dessus.
Je vois la répartition en termes de tâches. J'imagine que tu gères plus ce côté donc intendance dans la maison, du coup.
Ben, aujourd'hui, on a un fonctionnement de vie qui est complètement différent. Donc, effectivement, c'est plus moi qui gère, mais comme on a deux logements différents. Enfin, en tout cas, pour une partie de la semaine, puisque Fabrice travaille à Paris et donc il est toute la semaine sur Paris. Il rentre que le week-end.
Ouais.
Donc, fatalement, le quotidien et la maison, c'est plutôt moi. Mais j'apprends à déléguer à d'autres personnes, ce qui n'est pas mal non plus, de type femme de ménage, etc.
Bravo.
Le plus gros conseil que j'ai à donner à tous les gens qui s'installent, vraiment, c'est si vous avez un peu d'argent, si vous gagnez un peu votre vie, réinvestissez une partie de cet argent-là pour trouver quelqu'un qui va venir faire tous les trucs que vous n'avez pas envie de faire en couple. Et ça a été une grosse bataille, parce que c'était mon idée à la base de venir mettre une femme de ménage chez nous.
Ouais.
Parce que pour moi, il y avait un côté, en fait, on va réussir à on se voit peu et en fait quand on se voit on réussit à se prendre la tête sur des conneries aussi débiles que le ménage.
Ouais.
Donc si tu veux, vas-y, viens, on prend juste quelqu'un qu'on fait venir quelques heures par semaine et on s'occupe plus de rien. Et Kat, je pense que toi t'avais un côté un peu mais c'est pas c'est ma maison, c'est à moi de le faire.
Ouais, ça me semblait je sais pas, pas nécessaire en fait. Et du coup ça a mis du temps. Après finalement on l'a fait quand je suis tombée enceinte, pareil, parce que là et puis aussi parce que je travaille 6 jours sur 7 et qu'à un moment donné le dimanche c'est pas fait pour faire le ménage.
Ouais, bien sûr.
Enfin, a priori pas quoi.
Et on s'est beaucoup pris la tête à une période là-dessus,
c'est vrai,
parce que en plus t'en attendais de moi où moi le dimanche j'avais pas envie de faire ça
et moi j'attendais un partage et en fait c'était pas le moment donc
et puis ce qui est dur dans ce genre de cas en plus c'est quand il y en a un qui a plus d'exigences que l'autre.
Bien sûr.
En fait il y a toujours
ce décalage,
un décalage qui fait que c'est jamais assez bien, l'autre se sent dévalorisé, enfin c'est infernal en fait.
Non, voilà. Mais donc petit conseil pour ceux qui sont maniaques comme moi, il faut lâcher du lest vraiment, c'est pas. Non, mais
c'est négatif de dire maniaque, en fait. T'aimes bien que ta maison...
J'aime bien que ce soit bien rangé.
Bien que la maison soit bien rangée.
J'aime pas forcément ranger, mais j'aime bien que ce soit bien rangé. Donc je le fais.
Kat, par exemple, est incapable de rentrer à la maison sans passer
5 minutes...
Ah bah
d'abord, je vais ranger ce qui traîne.
Mais il n'y a rien qui traîne. Hein. C'est-à-dire que vraiment, la baraque, elle est nickel chrome. C'est-à-dire que...
Comparativement avec ton bureau, par exemple, à Paris, oui, c'est
voilà,
rangé.
Ça juge tout de suite, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai que la maison est toujours... très rangée, mais s'il y a, je sais pas, un papier qui traîne, un machin, en fait, elle va pas pouvoir faire autrement que de le ranger. Et vraiment, je lui dis, rends-toi compte de ce que tu es en train de faire, en fait. Tu peux pas juste, on s'en fout, ce papier, il est là, il peut rester là une heure ou deux heures de plus, ou même une journée de plus, ça changera pas la vie, mais tu peux pas faire autrement.
Oui, non. Pour que je m'asseye, il faut d'abord que ce papier soit rangé, mais c'est pas grave. Maintenant, je pense qu'on en a pris chacun notre partie.
Oui. Non, mais c'est vrai. Et puis, je me rends compte aussi, moi, que de mon côté, j'ai pas mal progressé sur ce truc-là. Je fais partie de ces mecs qui ont été élevés par une mère au foyer, qui ont vraiment... Ma mère, elle a tout fait. Et c'était vraiment pas nous rendre service. C'était cool à l'époque, hein, vraiment.
Ouais.
C'était vraiment pas nous rendre service de faire tout ça. J'ai jamais... repasser une fringue quand j'étais chez moi, j'ai jamais rangé mes fringues quand j'étais chez mes parents, elle faisait tout, donc c'était vraiment ce truc de elle veut se rendre utile et en fait j'ai eu beaucoup de mal, je pense aussi que toi t'es
rentrée
dans ce système là
puis moi à l'inverse, chez moi on est une fratrie de trois, j'étais la seule fille et j'ai aidé ma mère tout le temps.
Voilà.
Ouais, donc
parce qu'elle avait bien compris qu'elle pouvait partager avec moi, donc c'était très bien, donc on partageait, donc moi je faisais déjà pas mal de choses, donc moi j'ai continué.
Ouais.
Et toi t'as continué.
Et
il faut rééquilibrer.
Par exemple, quand tout le débat autour de la charge mentale est sorti, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est vrai que tu récupères un max de trucs sans que moi j'ai l'impression de faire quoi que ce soit. Et ça fait quelques années qu'on essaie de taffer dessus, mais c'est très dur pour Kat de,
ouais, de lâcher. De l'est.
Mais maintenant, il gère ses lessives et ça marche très bien.
Bravo. Bah, déjà voilà. Il n'est pas là un certain nombre de jours par semaine, donc ça aide aussi.
Mais je les gère. Hein, voilà. Ouais. Mais en fait, je gérais très bien mes lessives quand
j'étais à Bordeaux.
Quand j'étais à Bordeaux, je me suis démerdé tout seul comme un grand.
Toi, t'es content que, comme ça, en tout cas.
C'est ça, je suis vraiment un grand garçon.
Je sais pas que tu sais pas faire, c'est que je fais, en fait, à la place. Parce que voilà,
et est-ce qu'il y a quand même des trucs, Fab, que tu fais plus dans l'organisation de la maison que Kat? Pas forcément au niveau rangement, je sais pas, cuisine, enfants, parce qu'on va en parler, vous avez des enfants ou...
Alors je suis peu là.
Gestion administrative peut-être,
par exemple. Pire.
Ah oui, on est filmé, j'ai trop...
Les mots qui fâchent.
C'est encore pire.
Gestion administrative, comment dire.
mais c'est pareil en fait, c'est-à-dire que...
Oui, je fais.
Non mais c'est pas ça, c'est que dans ma vie, moi je délègue. Donc j'ai, à partir du moment où j'ai réussi à avoir quelqu'un chez Mad dans mon boulot qui s'occupait à... qui s'occupait de tout ça, je lui ai refilé, mais on en reparlera après. Mais Kat a beaucoup longtemps bossé sur Mademoiselle et elle a passé...
du temps.
Quasiment toutes ses soirées à un moment, parce que vraiment ça devenait beaucoup, beaucoup de boulot. On était 20-25 à un moment. Et quand j'ai réussi à refiler à quelqu'un en interne toute cette paperasserie administrative, alors déjà, tu as pleuré.
Bah oui, parce que j'avais l'impression de participer à ton projet.
Voilà. Donc c'était dur aussi.
Et puis ça faisait déjà 10 ans. Donc 10 ans d'administratif.
Beaucoup de temps passé.
C'est dur à lâcher.
Non, mais c'est sûr. C'est pas facile de déléguer.
Exactement.
Ça, et puis de faire partie de quelque chose. C'est quelque chose qui nous relie aussi, même si évidemment on ne vit pas qu'au travers de nos boulots. Heureusement qu'il y a autre chose, sinon on ne serait plus ensemble. Mais pour le coup, j'avais un pied dedans. Mais c'était très bien aussi que ça s'arrête, de toute façon. C'était trop, de toute façon.
Mais voilà, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, toute ma partie administrative compliquée, je veux la déléguer. Et j'ai compris ce truc de venir déléguer. Et c'est vrai que toi, c'est encore un truc sur lequel tu as...
Ouais, moi je fais moi-même.
Non, mais du coup, en fait, toi, t'as plus créé la culture dans votre foyer de justement réussir à déléguer, ce qui est hyper intéressant aussi, quoi.
Au moins, les enfants ont deux exemples.
J'ai surtout sur quatre, tu vois, si tu veux. Donc, c'est pas forcément une bonne.
Non, pas que, parce que c'est toi qui m'as poussé à prendre une femme de ménage. Aujourd'hui, tu dis, oh, leur passage, ça serait bien que tu t'en débarrasses. Enfin, donc, tu milites là-dessus, elles le voient, les filles. Donc, je pense qu'elles ont les deux modèles. Après, elles feront. Comme ça leur chante, et puis comme elles pourront. Parce que...
Et surtout, en fait, on a une étudiante aujourd'hui. Alors ça, c'est un autre truc que je recommande à tous les couples qui ont un appart ou une maison suffisamment grande avec une pièce où tu pourrais mettre quelqu'un. C'est en fait proposer, faites venir une au pair d'une manière générale, où nous, on a une étudiante, on a eu beaucoup de Françaises en fait, hein, en général, avec qui on fait un deal, alors c'est dans un contrat, etc., où on leur dit, tu viens, on te paye le loyer, en gros, on te file à moitié, la moitié de la bouffe, et en échange de ça, tu nous files X heures de babysitting.
Ouais, c'est top. Ça, c'est génial, hein, ce genre de truc, ça te change la vie, j'imagine, en tant que parent.
Oui, mais c'est surtout, moi, c'est ce qui m'a permis à l'époque de pouvoir quitter Paris, parce que de pouvoir quitter Lille, pour aller à Paris, parce que je ne voulais pas du tout laisser Kat toute seule. Ouais. Les filles étaient encore petites, elles avaient 6 et 4 à l'époque. Mais c'est vrai qu'au tout début de leur naissance, j'ai été plutôt plus présent qu'aujourd'hui, où j'allais les chercher.
Plutôt plus que moi-même.
J'allais les chercher le soir parce que je bossais à la maison. En plus, j'avais pas encore les bureaux à l'époque pour Mademoiselle. Donc, j'allais les chercher le soir et en fait, je m'en occupais jusqu'à ce que tu rentres, finalement. Et puis, voilà quoi. Et d'une manière générale, il y a un truc cool aussi, c'est que tu bosses le samedi avec ton job, qui a monté une agence immobilière il y a 15 ans maintenant. Et c'est vrai que de ce fait-là, le samedi, c'est ma journée avec mes filles, quoi. Donc ça, c'est cool aussi, quoi.
Oui, finalement, c'est sympa aussi, quoi. Ça te permet d'avoir ton temps.
S'en sortir comme ça.
Et alors, si on revient un petit peu en arrière, enfin, dans la vie.
Des étapes,
non, mais c'est hyper intéressant. Le mariage, déjà, c'est un truc qui nous intéresse évidemment chez Gémio, vous vous doutez, avec les fiançailles et compagnie. Mais au-delà de ça, c'est une fois de plus, moi, ça m'intéresse les caps, les franchissements un peu d'étapes. Et là, c'est quand même un grand cap. Comment ça s'est passé de la même manière? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui avait envie de ça depuis un moment? Enfin, est-ce que ça a été une discussion que vous aviez et puis un jour c'est arrivé? Comment ça s'est passé, même au niveau un peu profond, on va dire?
Je te sens que tu te moques de moi. Tu ris tout seul.
Il y a une histoire que je ne connais pas et que j'ai envie d'entendre.
Je pense que tous les deux, on savait qu'on allait vers ça. J'allais dire, il n'y avait pas de surprise. Quand on s'est mariés, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. Donc, j'allais dire, voilà, autour de nous, nos amis qui étaient aussi en couple depuis longtemps, parce que c'est une particularité chez nous, je ne sais pas, mais on avait à peu près le même fonctionnement. Donc, nos groupes d'amis, on s'est à peu près tous mariés en même temps. Ton cousin, 2 ans avant nous. Oui. Ton cousin, 2 ans avant nous, mais mes autres copines, la même année que nous, un peu après, un peu avant même. Mais voilà, après, on a notre propre histoire quand même. Et du coup, même si on sentait qu'on allait vers ça, on n'en discutait pas. C'était quelque chose... moi, j'avais pas envie
c'était
que ça soit...
C'était tabou ou c'était juste que ça ne vous venait pas à l'esprit?
Moi, j'avais pas trop envie, en fait. Parce que pour moi, c'était plutôt... C'est juste un papelard et c'est pas très grave, en fait. Le vrai engagement pour moi, ça a toujours été de faire des enfants ensemble.
D'accord. Ouais, après, pour moi, c'était important, je vais pas dire d'officialiser...
Je voulais faire une fête.
Oui, surtout. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais envie de réunir les gens
et de
que j'apprécie autour
après.
De moi. Pas que. Pas que. Non, de regarder quelqu'un ranger, là, pour le coup.
Ah, bravo.
Mais ouais, non, moi, j'avais envie quand même de passer le cap là. Ça me semblait important quand même. C'est peut-être plus dans ma tradition.
En fait, je pense que tu avais envie d'un mariage traditionnel que dont moi, j'avais pas envie.
Ouais, on a eu par contre un gros débat là-dessus, mais après la demande, entre guillemets, parce que je pense que c'est ça d'abord qui intéresse Pauline.
Non,
pas du tout.
Bien sûr que si, que c'était avant la demande. Ah non, sinon, je t'aurais jamais demandé.
Ah, peut-être alors.
On se souvient plus, c'était il y a trop longtemps.
Ça, voilà.
Mais en fait, Kat avait vraiment envie d'un mariage plutôt traditionnel, à l'église, etc. Et alors moi j'ai une éducation catholique, mais vraiment c'est un truc que j'ai repoussé depuis plusieurs années et qui aujourd'hui me dérange plus qu'autre chose en fait, mais bon c'est perso. Hein. Et c'est vrai que Kat avait plutôt envie d'avoir un truc où son père allait l'amener à l'église, à l'hôtel, etc. Et moi pas du tout, tu t'en souviens plus de ça?
Je pensais que c'était après, mais
non,
si, je m'en
non,
souviens.
C'est parce que, en fait, on a eu la chance, entre guillemets, que la plupart de nos amis autour de nous se marient avant nous. Mm-hmm. Ou mon frère, par exemple, s'est marié aussi avant moi. Mon
D'accord.
petit frère, il s'est marié avant moi. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouvait dans un mariage, je lui disais, tiens, regarde, en fait, tu regardes la cérémonie, tu regardes tu regardes le contenu, en fait, de ce qui est en train de se raconter. Est-ce que tu penses que ça nous ressemble ou pas? Et je pense que je t'ai amené à sortir
oui.
un petit peu de juste ce fantasme de l'église, l'hôtel, le papa qui ramène avec l'orgue, etc. Puis la grande robe, que tu t'es aussi rendu compte que tu pouvais avoir une grande robe en dehors de l'église et que c'était pas si grave.
Oui, non, t'as bien détricoté le truc, effectivement. Moi, j'étais plus dans le côté festif et grosse fête et grande ampleur.
La
et au final... En discutant...
Un rêve de petite fille un peu, quoi.
Ouais, je pense.
Au fond.
Mais idiot, quelque part. Après, voilà, en discutant, on a finalement réussi à faire un compromis de détricoter tout ce que je voulais, donc tous les côtés que je voulais,
D'accord.
et de les mettre dans quelque chose qui nous ressemblait.
D'accord.
Donc, la grande robe, au lieu d'avoir une robe blanche meringue, ce que je voulais pas, je voulais une belle robe, mais je voulais pas la robe blanche meringue, j'ai une robe jaune paille avec un haut rouge en velours et un petit manteau, parce que c'était le début de l'hiver,
c'est très joli.
Jaune fin. Et c'était très mignon, avec une coiffure qui était adorable. Ma meilleure amie, qui est aussi la femme du cousin de Fab, donc ma cousine, m'avait fait le collier. Ma fleuriste préférait le bouquet. Enfin, c'était,
c'était important. Personnel.
Je m'étais habillée chez mon associé, donc c'est plein de souvenirs, plein de choses importantes pour moi. Et puis, on a finalement fait ça dans un gîte.
D'accord.
Où le nombre de places était limité, ce qui limitait le nombre d'invités. Il y avait 31 places pour
D'accord.
dormir et on voulait que ça soit tout le monde reste là tout le week-end. Donc on a fait un vin d'honneur pour faire plaisir à nos parents quand même, où ils ont pu inviter la famille et puis leurs amis, mais qui était simple, j'allais dire, enfin qui nous ressemblait en tout cas. Et puis après, on est tous partis en voiture dans les Flandres parce que ma famille vient de là et c'était important pour moi. On s'est bien marré quand on a été chercher le gîte en plus. Et voilà, on était dans une chambre de 8 pour notre nuit de noces. Mais c'était.
J'avoue que c'est assez original, mais je trouve ça génial.
Mais c'était super. Enfin, ils ont joué une grosse partie de la nuit,
la
fin de nuit à la console.
À la
c'était. Et le lendemain, on s'est baladé dans la campagne avec les ânes. Enfin, c'était super.
C'était. Enfin voilà, c'était.
Ça nous ressemblait.
Ouais.
C'était festif.
Ça me ressemblait plus que le mariage que tu avais en tête,
c'est
toi,
ça.
À la base.
Mais moi, ça ressemblait à la fête que j'imaginais. Donc
D'accord.
finalement, pas du tout de ressenti, de regret ou ce qu'on pourrait imaginer. Pas du tout. C'était vraiment... Enfin voilà, on a fait la déco nous-mêmes, on a mangé des plats régionaux. Enfin, c'était.
Et moi, je voyais tous mes potes qui passaient leur journée de mariage à stresser.
Tout à fait. Et notamment, je pense, ton frère.
Avec 150, 200 invités à chaque fois, où tu dis, mais tu connais pas. Les trois quarts des personnes, c'est des invités que tes parents ont décidé de venir mettre là parce qu'ils ont été eux-mêmes invités, machin. Donc, t'as zappé avec tout ça la demande.
Oui,
qui est quand même la meilleure histoire.
Mais dans l'idée, en tout cas, ça nous ressemblait.
C'est ça. Donc, vous étiez en fait mis d'accord sur le fait que globalement, vous vouliez vous marier.
Voilà.
Oui.
Et ça, vous saviez, vous le saviez en fait entre vous. Il n'y avait pas eu de demande officielle, mais vous en aviez discuté.
Il y a eu.
Il y a eu une demande officielle.
D'accord.
Il y a eu. Disons que c'est venu du fait que j'ouvre mon agence immobilière et que...
Alors, pour re-raconter toute l'histoire, d'abord, c'est vraiment... Je pense que toutes tes potes commençaient à venir se marier.
Oui, effectivement.
Et que toi, tu commençais à me mettre un peu la pression.
Puis surtout, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble quand même.
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Et en fait, tu commençais un peu à me mettre la pression et je déteste ça. C'est-à-dire que vraiment, il y avait ce côté... tu vas finir par m'obliger à faire
à le faire et tout. Tu fais parce que t'as pas envie en général.
Ça me saoule. Et en fait, régulièrement, en plus, elle me le disait pas comme ça, mais ça venait au détour...
Des petites insinuations.
Au détour d'une conversation de façon extrêmement nulle. Je disais vraiment,
Non, c'était subtil, du type je crée ma société, donc un jour tu seras peut-être destinataire de la moitié des parts, mais pour ça il faudrait qu'on se marie.
Le côté juriste.
C'est hyper subtil. Pour moi, c'était très subtil.
Voilà, donc elle me dit ça un jour, et puis je sais pas, quelques mois plus tard, je finis par lui dire je finis par lui dire écoute, si ça t'intéresse, en fait, je crois vachement en ton projet et j'aimerais bien pouvoir mettre un peu de sous dans ton truc, enfin dans ton bise. Et Kat me dit, tu veux déjà pas me marier et tu veux quand même foutre des sous dans mon bise, quel est l'intérêt, quoi.
Cash.
Le truc qu'elle ne sait pas à ce moment-là, c'est que donc je pense qu'on est le lundi ou le mardi dans la semaine et que moi le jeudi soir j'avais prévu de lui faire ma demande en mariage.
Ah.
Voilà.
Donc sauf quand même, tu avais cédé à la pression.
Voilà, mais c'était prévu depuis quelques mois. J'avais un plan en tête et tout. J'avais une idée. J'avais un truc plutôt bien ficelé, quoi. Tu vois. Sauf que, en fait, quand elle me sort ça et qu'elle me shoot en pleine tête comme ça, j'ai deux solutions. Soit, en fait, je continue comme j'avais prévu, et en gros, ça veut dire je range mon truc, et puis en fait, je vais trouver autre chose, quoi.
Ouais.
Et en fait, j'étais saoulé parce que vraiment, mon plan de demande en mariage, c'était vraiment mon truc idéal, quoi. J'avais trouvé une bonne idée. Et donc, je ne sais plus comment ça se passe après, mais...
Du coup, je pense que tu as fait la gueule.
J'étais saoulé.
Ouais,
non, mais je comprends.
Après, je rentrais d'une fête à la fac et tu boudais dans ton coin. Et au final, je suis venue te parler et c'est moi qui ai fait la demande.
Voilà.
D'accord.
Donc, voilà.
Mais comment t'as fait la demande, du coup?
Je lui ai tapé dans le dos. Il s'est
retourné.
J'étais en train de dormir.
Semblant de dormir.
Je m'étais couché, j'étais saoulé, vraiment. Donc, elle m'avait... Enfin, en fait, en gros, j'étais un peu couillon parce que moi, je pensais pas qu'elle raccrocherait ça au mariage sur le moment. Mm. Mais en fait, elle a pas pu s'empêcher, surtout que c'était un peu son truc du moment.
Mm.
Donc, je me suis dit, OK, en fait, en gros, ma demande, quoi qu'il arrive, elle est foutue, quoi.
Ouais.
Donc, c'est vrai que je suis allé me coucher, j'étais un peu saoulé. Et en vrai, j'étais même triste parce que je pense même avoir pleuré et tout, tellement j'étais dégoûté sur le moment. Et donc, je suis allé me coucher, je me suis collé dans un coin.
Voilà, et donc, je lui ai tapé dans le dos, il s'est retourné et c'est moi qui ai posé la fatidique question.
Et t'as quand même accepté.
Bah oui, c'était trop cool en plus parce qu'on avait des coupes de champagne en plastoc, on a bu...
Non, mais on a bu du coca, effectivement, c'est tout ce qu'on avait au frais. Donc voilà, c'était pas prêt du coup.
Donc voilà, mais effectivement, donc, ce que je lui avais dit, c'est que après on s'est dit, si dans 10 ans on est encore ensemble, je te promets que pour nos 10 ans de mariage, je te refais la demande.
Ah, et alors
avec le plan de départ,
est-ce que ça a eu lieu?
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez m'arrêter ça?
Alors, il faut savoir qu'il y a une histoire dans notre couple qui est que Kat... Je pense, a toujours été, non, on ne sait pas trop, hein. Je ne saurais jamais. Kat est souvent...
Longtemps, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, non.
Ça va mieux.
Ouais, j'ai accepté
l'idée, je
pense. Parce
que quand même, je fais le truc. Mais a longtemps été convaincu que mon histoire de jeudi, c'est ma demande,
n'existait pas.
C'était du bullshit.
Tout à fait. Mais bon, c'est tout. J'attendais les 10 ans quand même.
Un bon mariage basé sur une bonne confiance en l'autre.
J'avoue, j'allais vous demander le secret du bonheur à deux pour les deux. Je pense que
La confiance, c'est très important. Bien. Et donc, à chaque fois que j'en parlais, qu'on racontait un peu cette histoire, à chaque fois, elle faisait. Enfin bon, il dit
qu'il allait le faire le jeudi.
Il dit qu'il allait le faire, mais c'est pas.
On sait pas.
Vraiment, moi, je pétais un plomb. Je lui dis, mais je te jure, t'es pas dans ma tête.
Ça te vexait, hein, quand même, ça.
Bah,
Oui. Non, mais je comprends.
Merci, Pauline. et donc, oui, au final, j'ai fini par faire ce... par porter 10 ans. Tu le sentais venir ou pas?
Je le sentais venir, oui, parce qu'on en avait parlé. Donc, dans un coin de ma tête, comme tout est rushement cadré dans ma tête, je savais que ça faisait 10 ans. Hein, donc je suis pas...
Moi, j'en ai pas parlé du tout pendant 10 ans. C'était
au contraire. Ouais, tu l'as gardé, c'était le secret.
Si. Malin. Mais après, je savais pas ce que ça allait être ni rien. Donc, c'est tout. J'attendais. Je suis pas non plus.
Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai bandé les yeux. Je lui ai mis un casque sur les oreilles. Je l'ai amené sur la Grand Place à Lille. Parce qu'en fait, à la Grand Place de Lille, à partir du mois de novembre, il y a des. Il y a un marché de Noël et en fait il y a une grande roue. Il y a une grande roue géniale. Et en fait, je l'ai amenée sur la grande roue, elle a les yeux bandés et tout. Et en fait, je lui ai refait ma proposition.
En haut de la grande roue.
Et
toi, tu savais que tu étais en haut, tu avais compris ce qui se passait ou pas du tout?
Alors, sur le coup, j'ai pas compris du tout. Après, je suis montée dans la grande roue, les yeux bandés.
Bah oui.
Et je pense que tu les as assez vite, par contre.
Quand on était tout en haut.
Je sais plus, j'avoue.
Non, je te jure.
Ce que je me souviens, c'est que tu avais ramené le champagne et les coupes de champagne cette fois-ci.
Pas mal.
Mieux que le coca.
C'est ce que j'avais prévu à la base.
Voilà. Et non, c'était un
J'avoue
beau moment.
L'idée était bonne. Ça valait la peine d'attendre 10 ans. Est-ce que du coup, tu as dit oui cette deuxième fois?
Oui, oui, bien sûr.
Parfait. Le suspense sinon, vraiment, ne durera pas.
Ça aurait été un problème. Là. Non, alors en fait, non. Top. Et donc, tout ça se passe très bien puisque vous êtes encore ensemble et vous avez même des enfants.
Oui.
Vous en avez deux, vous m'avez dit deux petites filles. Pas si petite parce que 10 et 12 ans, c'est ça, j'ai compris. Ouais. Et là aussi, une fois de plus, hein, j'adore les caps, j'adore un peu les grands sauts, les franchissements. C'est un énorme saut. En plus, toi, tu disais, Fab, que pour toi, c'était un peu le cap ultime et puis l'engagement ultime. Je pense qu'on peut dire que ça l'est. Pour le coup, est-ce que là, vous en avez discuté? Est-ce que, enfin, pareil, sans indiscrétion, mais ça s'est passé comment? C'était après votre mariage? C'était quelque chose qui était important pour vous et que vous avez décidé de faire communément? Ou en fait, c'est arrivé un peu par hasard? Enfin, comment ça s'est passé?
Je pense qu'assez vite, on a su qu'on serait une famille. Enfin, j'allais dire, ça n'a pas vraiment posé questionnement, je ne pense pas. Par contre, c'était plus sur le moment. Moi j'ai créé ma société en 2004 et le temps que ça se mette en place, au bout d'une petite année, moi je me suis dit maintenant c'est bon, ça va tourner, enfin j'espérais, en tout cas j'y croyais et c'est mieux, et j'étais prête, donc je lui ai dit, écoute, moi je suis prête. Et par contre j'ai attendu qu'ils me disent moi aussi, donc ça a mis un an.
Alors moi j'étais pas prêt, parce que en fait au départ je voyais les enfants des autres. Et je trouvais que les enfants étaient horribles d'une manière générale. C'est trop bien les enfants, un peu comme les chiens pour moi, tu vois, c'est super d'en avoir un pour une après-midi.
Ouais,
et puis après, il faut le rendre parce que vraiment, ça va. Et les enfants, c'était un peu pareil pour moi. J'avais vraiment un rapport compliqué d'une manière générale avec les enfants des autres. Et en fait, je me disais, mais si c'est ça d'avoir des enfants, si c'est pour avoir des enfants qui sont horribles avec le reste de l'humanité, pourquoi faire, quoi ? Quel est l'intérêt ? Et c'est vrai qu'à la base, j'avais plutôt envie de faire des enfants, mais vraiment pas tout de suite, parce qu'on, l'air de rien, on était jeunes. Hein, quand Lina est née, j'avais 28 et toi, t'avais 26.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est jeune quand même.
Donc on était très jeunes. Ouais, c'est ça. T'es tombé enceinte à 25. Truc de ouf.
Oui. Ça doit être ça.
Voilà, c'est tôt. Ouais. Et mais Kat avait tendance à très bien jouer le coup sur ce coup-là, plutôt que elle avait, je pense que tu avais compris comment ça se passerait pas avec le mariage, sinon. Et tu m'as juste dit, ok, enfin voilà, moi je suis prête, maintenant c'est quand tu veux. Et en fait, elle m'a, pour le coup, c'est le cas de le dire, mais planté une graine qui m'a juste permis de prendre conscience de, ok, peut-être en fait que si on en fait des à nous, on réussira à en faire des qui sont pas horribles avec le reste de l'humanité.
D'accord. Non, mais avec vous aussi.
Oui. Accessoirement, nous, ce serait bien. Oui.
Donc voilà. Moi, ça m'a vraiment permis de prendre le temps. Et je sais pas, peut-être un an.
Une petite année après. Jour, un jour comme ça, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit en fait c'est bon, je suis prêt.
Ouais, je pense.
C'est fait naturellement, mais c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Vraiment.
Tu le sens, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça. Tu as dû me dire, c'est bon.
C'était, avec le recul, une immense bêtise. Hein,
non, pas du tout. Mais c'est un risque. Enfin, vous le disiez, c'est pour le coup, par rapport à la maison, c'est quand même un sacré risque en plus.
C'est ça.
Mais
c'est plus la même histoire.
Pour le coup, moi, j'étais sûr de faire ma vie avec Kat. C'était plutôt l'idée de se dire, ok, est-ce qu'on on est prêt et c'est le moment de se dire, ouais, ok, on va faire des enfants.
Tu viens de créer ton entreprise quand même, voilà. Toi aussi tu étais à ton compte, c'était pas évident quoi.
Bah voilà.
À l'époque, en plus, c'est vraiment concomitant toi avec la création de ton entreprise.
Voilà, on va raconter.
Et vous n'avez pas eu peur justement, parce que souvent c'est vrai que les gens qui ont des enfants attendent vraiment d'avoir entre guillemets une situation stable. Vraiment, et d'ailleurs souvent leur comportement aussi change un peu, je vais vous poser la question après, mais sur par exemple les économies, etc., ils essayent de faire plus attention parce qu'ils se disent bon bah il faut que je lègue quelque chose à mes enfants. Vous vous y avez réfléchi à ça ou finalement pas tellement, et ben, vous avez juste eu tellement envie que c'est arrivé naturellement?
Quand moi j'en ai parlé un an avant, Fabrice il était encore salarié. La question se posait pas trop. Moi, la boîte que je venais de créer, ça commençait plutôt pas trop mal, et on est de nature confiante. Donc, je pense qu'on s'est pas, voilà, ça m'a pas trop questionné. Mais après, voilà, je pense qu'on a des capacités de rebond si ça marche pas professionnellement. Enfin, on s'est pas fait peur là-dessus.
Non, je pense. Enfin, on s'est jamais vraiment posé la question de la situation. On s'est plutôt, et je pense que, en fait, c'est jamais le bon moment et. D'une manière générale, c'est une vraie vérité, ça, c'est que c'est jamais le bon moment. Ouais. Donc, en fait, quand tu sens que c'est le bon moment, il faut y aller, et que tu penses qu'au fond de toi, tu es prêt, faut pas attendre la bonne situation. Mais c'est comme pour créer sa boîte.
Ouais, exactement. Que
les gens qui disent moi, je créerai ma boîte quand j'aurai plus d'économies, etc., tu le fais jamais, quoi. C'est jamais le
bon moment. Ou acheter un appart, enfin, finalement, toutes les prises de risque,
Il faut se lancer. Jamais en fait. Le bon moment. On est plutôt de nature à se lancer une fois qu'on est prêt.
Ah, bah là, on s'est lancé. Hein.
Ouais, c'était le grand saut.
Et alors, justement, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, j'imagine, mais depuis que vous avez des enfants? J'ai pas envie de vous. Enfin, si, je vais vous demander aussi les conseils que vous pouvez donner à des personnes qui envisagent d'avoir une famille et qui savent pas tellement à quelle sauce ils vont être mangés. Mais voilà, l'envers du décor de. On a deux petites filles, déjà entre le premier et le deuxième, qu'est-ce qui change et comment votre vie, votre couple a changé?
Ça change tout. Il faut être prêt. c'est peut-être idiot à dire, mais c'est quand même un raz-de-marée, à la fois dans la vie du couple, mais dans la vie perso, dans la vie pro, ça change tout. Je pense qu'on n'est jamais prêt, mais c'est ce qu'on disait sur le fait de le faire, de toute façon.
Surtout, personne ne nous prévient.
Mais voilà, non, mais effectivement.
Bah là, prévenez
voilà.
Les gens.
Bah voilà. Alors, c'est le grand truc de Fab, ça. C'est à chaque fois qu'on croise des couples de personnes plus jeunes, ou pas forcément, mais en tout cas qui n'ont pas d'enfants et qui ont ce projet, c'est vraiment de leur poser la question, est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est plus jamais pareil.
Et ça veut dire quoi, est-ce que vous êtes prêts?
Ça veut rien dire.
Est-ce que ça change, en fait, simplement? Est-ce que les choses changent? Il ne faut pas penser que le fait d'avoir des enfants, ça va s'ajouter au reste, comme créer une nouvelle boîte ou j'en sais rien, ou déménager. Ça n'a rien à voir. Moi, ce qui me manque le plus, je pense, c'est... Enfin, ce manque, cette façon de parler, puis ça revient avec le temps, quand ils grandissent, c'est la spontanéité.
Un peu de sanglot dans la voix.
Non, mais c'est parce que comme je suis de nature assez organisée...
Oui, t'es obligée de plus t'organiser
Complètement. Là, on ne peut pas dire, bah, ils ont 2 et 4 ans, et bah, on va aller au resto. Ouais. Allez. c'est tout. Et puis c'est toute sa vie, même s'ils grandissent et qu'après on voit les choses différemment. Toute sa vie, il y a quand même... il faut s'occuper de quelqu'un d'autre que soi. Alors, s'occuper d'un couple, c'est déjà du temps, je pense, et de l'énergie, et puis, ça, on le faisait plutôt bien. Mais s'occuper d'une famille et donc de voir deux petites choses là qui grandissent, qui sortent de nous et qui grandissent et
qui sortent de toi plutôt, pas de...
Oui, mais bon, c'est de l'association moi, de nous
moi,
quand
un peu
même.
Moins, si tu me parles.
Ils sortent pas de toi, mais ils viennent de toi quand même. Mais c'est de se dire, bah voilà, maintenant il faut que ça fonctionne. Ouais. Il faut être sûr que ça va marcher. Il faut donc ça met quand même une pression qui est. En même temps, après, moi, je suis partisane de laisser les gens de notre entourage faire ce qu'ils veulent. Toi, t'es quand même assez dans le...
Non,
vous êtes sûr.
Je me suis calmée un peu là-dessus, mais c'était vraiment En fait, en grandissant, je me suis rendu compte que quand les filles ont grandi, je me suis rendu compte que c'était super une fois qu'elles avaient passé l'âge où elles peuvent commencer à être à peu près autonomes. Mais c'est vrai que les premières années, moi, j'ai eu beaucoup de mal à... même si je m'en occupais et que c'était cool, hein, vraiment, j'ai cette sensation de perte de liberté qui m'a vraiment foutu les boules, hein, vraiment. Et je pense que beaucoup de parents ressentent ça et d'une manière générale le disent pas trop parce qu'il y a un côté.
Ouais. On honte certainement aussi oui, même de ressentir ça.
Il y a cette pression sociale du
pense
parent
que
indigne.
Personne le dit, effectivement, tout le monde, c'est toujours tout beau, tout rose, tout gentil. Oh, c'est super les enfants. Oui, c'est super, c'est vrai, mais faut être prêt. Enfin, il faut faire des concessions sur d'autres choses, en fait. Donc, il faut le savoir, c'est tout.
Et nous, on s'est organisé. Un truc, je pense, si on a un conseil à donner, c'est gardez-vous une plage dans votre vie où vous vous retrouvez rien qu'à deux. Et je pense que c'est quasiment depuis le tout début, depuis la naissance ou quasiment de Lina, On a
quasiment, alors pour peut-être pas la naissance de Lina, mais en tout cas très vite, effectivement.
On a notre soirée dans la semaine et en fait
toutes les semaines vous avez votre soirée fixe.
On a notre soirée
quasiment toutes les semaines, ouais.
Oui, enfin sauf.
C'est super rare qu'on l'ait pas, et quand on l'a pas, pendant quelques semaines d'affilée, ou, ouais. En plus on vit pas ensemble, ouais. Si tu veux, donc vraiment on essaie d'avoir ce moment-là rien qu'à nous. Et quand on l'a pas pendant quelques semaines d'affilée, on sent que ça déraille entre nous. Tu sais, il y a ce truc de on se parle moins et on se raconte moins de trucs. Et c'est vrai que la semaine, on n'a pas trop le temps on se voit plutôt, tu sais, des messages de service dans la semaine ou des petits cœurs pour des petits mots sympas et tout. Mais d'une manière générale, on passe pas 3 heures au téléphone parce qu'on n'a pas le temps de passer 3 heures. Donc ce moment-là qui est très sacré, où on passe 1h30, 2 heures au resto à se raconter toute notre semaine et toutes nos vies, c'est hyper important. Et je pense vraiment que d'une manière générale, les jeunes parents ont tendance à sous-estimer l'importance de réussir à se retrouver tous les deux, ouais. Et puis de se faire tous les 3-6 mois de se barrer pendant un week-end, de prendre 2-3 jours où on n'est que tous les deux et on sort de notre quotidien, quoi.
Et ça, pour le coup, on l'a pas fait tout de suite et on le regrette un peu plus, donc on peut le donner en conseil, ouais. Effectivement, autant la soirée hebdomadaire, c'est vrai que ça a été quasi tout de suite,
ouais, mais ouais. C'est rare déjà,
on a eu une ribambelle de baby-sitters.
On a eu plein de babysitters, ouais. et l'un de mes trucs, en fait, moi j'ai vraiment poussé Kat à avoir une étudiante à la maison. Au départ, elle ne voulait pas pour des raisons de « j'ai pas envie d'avoir quelqu'un d'autre étranger dans ma maison ». Moi, j'avais vraiment ce truc de réussir à retrouver une forme de spontanéité, de liberté, et de se dire « ok, en fait, viens, on a passé une mauvaise journée, une journée compliquée, on se retrouve à deux, la meuf, elle est là, elle est dans sa chambre, on peut juste lui dire « écoute, on s'en va, est-ce que tu peux t'occuper des filles ?» Elles étaient suffisamment grandes à l'époque, en plus, si c'est quatre, tu vois, elles n'ont pas besoin qu'on leur donne le biberon toutes les 2 heures. « Vas-y, viens, on s'en va ». Et c'est vrai qu'au final, on l'a vraiment jamais trop utilisé, cette liberté-là.
La spontanéité, tu veux dire le faire au dernier moment ?
Ouais.
Bah si, la fois où tu t'es pris un échafaudage parce que tu tapais un texto, par exemple, à Paris, je suis venue passer la nuit avec toi parce qu'à l'hôpital, ils t'avaient dit que c'était mieux que tu dormes pas tout seul.
C'est vrai.
Donc ça a quand même permis ce genre de choses.
C'était cool.
Hein, j'ai dit, est-ce que tu peux garder les filles ? Il faut que j'aille voir Fab.
En même temps, à Paris, ils mettent des échafaudages à hauteur d'homme, si tu veux. Donc,
enfin, moi, je suis un peu petite, donc j'ai pas ce problème.
Mais c'est vrai qu'après, finalement, on n'en reçoit pas le besoin, on n'en ressent pas le besoin, mais on peut le faire plus facilement, en tout cas. Et puis on a déjà ça nous permet, si on est fatigué, de se en ce moment c'est Delphine qui est chez nous, de dire à Delphine, bah écoute, si ça te dérange pas, au lieu de sortir vendredi, on sort samedi. Si elle a rien de prévu, bah on décale, et puis comme ça on est plus en forme. Enfin, il y a quand même une forme de spontanéité retrouvée,
tu sens plus de liberté, quoi.
c'est ça. Mais en tout cas, important, même le début, et même sans avoir la personne à domicile, parce que nous on en a besoin pour d'autres raisons aussi. Mais voilà.
Mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de couples que je vois qui deviennent parents.
C'est ça.
Et quand ils deviennent parents, ils ne deviennent que parents.
Tout à fait.
Et ils laissent un peu tomber le couple, et je trouve ça hyper intéressant de votre part.
L'un de mes gros flips aussi.
Je pense que c'est pour ça aussi que tu ne voulais pas au début.
C'est que quand tu es tombée enceinte tout juste, ou avant, je ne sais plus. En fait, quand on a commencé à se dire ok, en fait on va procréer, toi et moi, je suis allé la voir en lui disant, en fait je veux qu'on continue à rester amants, et pour moi c'est hyper important, si on devient juste des parents, ça va pas aller et je vais avoir du mal. Et c'est vrai que il y a des amis à nous qui ont trouvé que je formule ça était un peu malvenu et était un peu foutre une pression à Kat de « en fait, j'ai encore envie de toi, j'ai encore envie qu'on fasse l'amour, etc. Et » alors que moi, au contraire, je trouve que c'est hyper sain de lui avoir dit ça. Et je pense que pour elle, en plus, c'était une façon de dire « ok, en fait, c'est ça que t'attends de moi, ok, ça marche, on va faire en sorte que… »
Ouais, moi, j'ai trouvé ça positif aussi. Enfin, puis de toute façon… On a toujours communiqué, et le but c'est toujours de se dire les choses, donc c'était important à ce moment-là pour toi, et c'est sans doute, c'était avant que je tombe enceinte, je pense que ça a été aussi un élément déclencheur du fait que tu te sentes prêt. Parce qu'il y avait ça.
Je ne sais plus exactement.
Si, ça c'était dans ce sens-là.
La pression était tombée.
Ouais, non, mais ça faisait partie, je pense, de la prise de décision.
Ouais, c'est sûr.
D'abord, on est ensemble, on est un couple en fait, et puis en fait, on est parents à côté.
Effectivement.
Et même vis-à-vis de nos filles aujourd'hui. C'est vraiment un truc qu'elles ont entériné, c'est-à-dire que on n'est pas alors parfois la plus petite qui s'appelle Kim, elle a tendance à nous faire des sketchs le vendredi soir quand on décide de se barrer, elle aime bien appuyer sur les petits boutons de la culpabilité, ouais. De, ah mais vous allez partir,
ils sont bons pour ça, les enfants,
tout seul, ouais. Machin. Et c'est vrai que on lui a tout de suite rapidement dit, mais en fait c'est important pour nous de pouvoir nous retrouver, et c'est très important pour nous, au-delà de juste toi et de En plus, tu vas dormir dans 10 minutes. Pourquoi tu nous saoules, quoi?
Effectivement. En plus, elle dort. Voilà. Toujours.
Donc ça a vraiment été un truc qu'on a communiqué aussi à nos enfants. On reste un couple, amoureux avant d'être vos parents, quoi.
Génial. Et dans ce beau tableau, est-ce que malgré tout, il y a eu des moments difficiles? Alors, vous m'avez parlé à longue distance, c'est peut-être ça, peut-être d'autres choses. Des moments où votre relation n'était pas simple et vous en avez retiré quelque chose. Peut-être que vous avez appris justement sur vous-même, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Tout qui raconte.
On est en plein dedans, en fait. On est vraiment en train d'en sortir. Moi, j'ai eu droit à un traitement de faveur de la part des réseaux sociaux il y a 2 ans sur Twitter.
Ah bon,
où en fait j'ai été accusé par
infernal,
voilà, j'ai été accusé par des témoignages anonymes de harceler sexuellement et moralement et mes employés, de virer les femmes enceintes, enfin bon,
d'accord,
voilà, des témoignages anonymes par un compte anonyme, si tu veux,
sympathique.
Voilà, ça a fait un l'odeur du sang sur Twitter, tu connais quoi, un énorme bad buzz pour le coup.
Ah ouais.
Et moi je l'ai pas bien vécu, tu vois, après 11 ans de
c'est fou comme on prend personnellement ce genre de choses.
Voilà.
Ah oui.
Ah oui,
là, ça atteint vraiment directement.
Non, mais même quand c'est débile et que ça. C'est
ah évident, bah même quand on sait que c'est. Que c'est fait pour être méchant et tout ça, on le prend pour soi. Enfin, tu l'as pris pour toi et ça a été hyper difficile sur le coup. Et c'est vrai que ça a été dur pour nous, du coup, à deux aussi.
Alors, ça a été dur pour nous, je pense. Moi, de mon côté. Heureusement que tu as été là, en fait, parce que sinon je pense que vraiment je me foutais en l'air. Hein. Il y avait un vrai truc de.
Il y a eu un moment vraiment difficile.
Vraiment un moment assez compliqué. En plus, ça rebondissait sur les filles, et pour moi, c'était le pire.
Horrible.
Parce que.
Bah, devoir expliquer ça à ces enfants qui ont 8 et 10 ans à l'époque, ou un an de plus,
en fait,
pour pas qu'elles l'entendent dans la cour de récré, parce qu'on sait pas.
En fait, Lina était petite à l'époque, mais elle avait des copines au cirque, parce qu'elle fait du cirque, qui étaient plus grandes qu'elle et qui lisaient Mademoiselle. Donc, si tu veux,
ça pouvait lui revenir aux oreilles.
Et elle savait très bien les copines que j'étais le père de Lina. Donc, si tu veux, moi, assez rapidement, je me suis dit, ok, je préfère qu'elle l'apprenne par moi plutôt que par ses copines de façon random. Puis, même sans vouloir, je sais qu'il y a déjà des gens qui sont allés la voir de façon un peu naïve en lui disant, comment ça s'est passé pour toi, le fait que ton papa aille pas bien et tout. Elle s'en fout, laissez-la tranquille. Quoi. Leur expliquer ça et Lina, en plus sortant d'une période de harcèlement scolaire l'année juste avant, si tu veux, lui expliques ça et elle te dit, et quand elle te dit, c'est un peu ce que j'ai vécu moi à l'école, sauf sur Internet, c'est ça. Exactement, voilà, chialade et tout ce qui va avec, c'était assez chaud. Et en fait, moi, j'ai réussi à m'en sortir par, j'ai fait une thérapie. Et c'est vrai que on a Kat et moi, de ce fait-là, pas du tout avancé. Tu vois, autant jusque-là, on a plutôt avancé dans nos vies de façon assez identique, sur des chemins parfois différents, etc., mais de façon assez identique. Et c'est vrai que ce moment-là était vraiment dur à vivre parce que moi, ma thérapie m'a vraiment sorti du bois et m'a fait ouvrir des
sur toi et tout.
Voilà, ouvrir plein de choses. Et c'est vrai que toi, t'es un peu resté.
Moi, j'ai essayé de gérer l'urgent, j'allais dire, pour le coup, ce que je sais bien faire, hein, j'ai géré le quotidien. Et je me suis enfoncée là-dedans, mais aussi pour pas s'enfoncer ailleurs, j'allais dire. Et puis parce que je pouvais rien lui apporter et c'était ça qui était le plus difficile, je pouvais pas l'aider. C'est pas de moi dont il avait besoin, je savais pas quoi faire. Donc j'ai laissé, mais du coup j'ai laissé, donc lui il a progressé et il a repris pied, ça a mis du temps mais il a repris pied, et puis moi je suis restée un peu en arrière à pas trop comprendre ce qui se passe parce que j'avais pas pris la mesure du truc, parce que moi je suis pas une femme de l'internet, donc j'ai compris ce qui se passait quand même, mais je pensais pas que ça serait aussi dur pour lui, je pensais pas que ça serait aussi long du coup d'en sortir. Et je m'étais dit, ça va durer 2-3 mois et puis ça va. Les gens vont oublier, oui, les gens oublient, la personne.
Mais les gens n'oublient pas.
Et puis en plus, c'est quelque chose qui reviendra effectivement.
Rue 89 a fait un article, cet article a fait 400 000 vues, si tu veux. Je me suis rendu compte que quand tu tapais mon nom dans Google, c'était associé à ce truc.
C'est ça qui sort en premier,
Tu vois, ça revient, ça me repop à la tronche très régulièrement, quoi, tu vois.
Mais bon, maintenant, t'es prêt.
J'ai appris à le vivre, mais si tu veux, au sein de le cadeau bonus qu'on n'avait pas vraiment anticipé, c'est que moi, quand je suis sorti de là, il a fallu gérer une crise de couple comme on en avait, je pense,
Je pense qu'on en avait
jamais vécu, quoi.
Ouais, effectivement.
Et ça a été assez compliqué pour nous. En fait, moi, vraiment, j'étais parti dans un truc où limite Kat était encore dans des réflexes de protection par rapport à moi, alors que j'avais plus envie de ça. Et en fait, j'avais plutôt envie qu'elle se libère et qu'elle se... Ouais. Et puis tu vois qu'on parle de ces histoires du fait qu'elle aime bien que sa maison soit rangée, ouais, etc. Moi, c'est des automatismes aujourd'hui que j'arrive, grâce à la thérapie, à avoir tout de suite, et en fait, qui finissent par me dire... par me rendre un peu zinzin, à me dire mais pourquoi en fait t'es en train de t'infliger ça alors que ça sert à quoi. Et c'est vrai que Kat a plutôt tendance à le faire, quoi, juste parce que tu le fais.
Et... ouais, et puis c'est une sorte de protection, je pense aussi. Pendant un an, moi, j'ai tout pris sur moi, j'ai essayé de pas t'embêter avec rien parce que je voyais que t'allais pas bien, ouais. Donc je l'ai protégé, mais finalement c'était peut-être pas la meilleure méthode, mais c'était la seule que j'avais trouvée, c'était mon moyen à moi de me battre.
Ouais,
et puis du coup,
méthode,
au bout d'un an, bah, toi, t'as sorti la tête de l'eau, j'allais dire, finalement, fièrement et super bien. Et moi, je suis restée derrière. Et c'est après où ça a été dur, finalement. Parce que sur le moment, ce qui
quand
était
il
dur,
allait
c'était...
mieux.
Voilà, c'est ça. Sur le moment, ce qui était dur, c'était de le protéger et de gérer tout le reste. Mais ça, c'est ce que je sais faire. Donc, c'était pas si dur. Par contre, au bout d'un an, quand lui allait mieux et que lui voulait me tirer vers le haut, il voulait me faire découvrir plein de choses... moi, j'étais pas bien, quoi. Enfin, j'avais tout pris sur moi.
Et puis, t'avais l'impression peut-être qu'il avait changé.
Alors, changer, c'est toujours le même, j'allais dire. Mais effectivement, non, mais il s'est ouvert à plein de nouvelles choses. Et j'ai eu du mal, moi, à me mettre dedans, à essayer de comprendre, à suivre tout ça. Voilà, donc, aujourd'hui, j'essaye de rattraper le temps perdu. Mais ça nous a apporté énormément aujourd'hui avec le recul.
Oui, parce que ce qui ne nous tue pas...
nous rend plus fort. Tout à fait. Bah, merci beaucoup.
C'était effectivement le moment un peu plus
oui,
hyper inspirant. Non, mais souvent, c'est vrai, quand on va très très mal, quand on arrive à passer le cap, comme
après,
tu dis,
ça va
plus fort.
Ça va vraiment
et c'est
bien.
Vrai que le décalage n'est pas toujours simple, parce qu'en plus, je pense que la personne dans le couple qui va bien au moment où l'autre est mal, bah, prend tellement sur elle qu'en plus, j'ai l'impression d'être dans l'effort, stagne un peu, en effet, peut-être. Et du coup, ce décalage est très très dur, ça c'est certain.
Très bien
c'est
résumé.
Certain. Et comment... entre guillemets, là j'ai l'impression que vous en êtes sorti, mais justement dans ces moments difficiles, est-ce que vous auriez, indépendamment de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez appris sur vous-même, est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner? J'essaie toujours de trouver un petit peu petits conseils aux personnes justement qui vivent ces moments de décalage difficiles où franchement ils ont vraiment envie que leur couple marche, ils savent qu'ils sont quand même faits l'un pour l'autre, mais juste voilà, il y a un moment où on n'est pas aligné. Comment est-ce qu'on fait pour se réaligner? S'il faut juste être patient, c'est quoi le...
Alors, c'est sûr qu'il faut être patient. C'est pas facile tout le temps. Après, je pense communiquer, c'est vraiment le maître mot. Je pense qu'on avait un peu perdu ce côté-là.
Bah, je pense que t'as pendant
parce que je t'ai ménagé longtemps,
voilà,
longtemps et le fait de ménager et de protéger, du coup, je communiquais plus parce que j'avais toujours l'impression que ça allait être trop par rapport à ce qu'il vivait à côté. Donc, je voulais pas. Donc, tous les petits trucs du quotidien qui paraissent pas lourds, mais qui finalement mis bout à bout, y a d'autres choses à gérer quand même que ça. Et du coup, c'est vrai que je le protégeais, je parlais plus en fait, je disais plus rien, je l'écoutais et j'essayais de voir s'il allait mieux. C'était ma seule problématique du moment, j'allais dire. Et finalement, on avait perdu tout ce côté...
d'échange, quoi.
Ouais, c'est ça, d'échange plus profond, je voulais pas qu'on s'engueule, donc du coup, j'abordais plus de sujets de fond, enfin, il y avait tout ça qui était un peu mis de côté et qu'il a fallu reprendre après, retravailler et redémarrer là-dessus. Et c'est pas si évident que ça, finalement, de retrouver une complicité. Mais ça fonctionne, ça marche. Donc voilà, tout le monde peut se relever.
Et puis Kat, elle a une éducation où on a tendance à mettre la tête un peu dans le seau, tu vois, par rapport au conflit dans la famille. Et je pense que ça a été dur aussi pour elle de se dire comment est-ce que je fais moi pour... y a des trucs qui sont en train de déconner, qui sont en train de clocher. Et en fait, en vrai, je préfère mettre la tête dans le seau. Et moi, je me rendais compte de rien.
Oui, faire semblant de ne pas le voir, quoi. Après.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et donc, mais ça t'a aussi...
Ah, moi, j'ai là, pour le coup, maintenant, j'ai fait un sacré bond.
Bah, voilà. Tu
un peu à retardement, mais finalement, ça fonctionne bien aussi.
On s'en fout.
Voilà, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer.
Chemin.
Exactement. Parfait, merci beaucoup pour ce partage. La dernière question que j'aime bien poser en général, c'est tout bête. Vous y avez peut-être réfléchi parce que je sais que vous êtes des gens très intelligents, mais quel est pour vous le secret du bonheur à deux? Vous qui avez vécu tant d'histoires, moments difficiles, moments faciles, moments merveilleux, tout ça, c'est quoi pour vous le secret de la longévité?
Je ne sais pas s'il y a un secret, il y a plein de petits trucs, on va dire, ça c'est sûr.
Moi, je pense qu'il y a un truc un peu important, c'est que, en tout cas charnière pour moi, c'est qu'on a fait assez tôt dans notre... En tout cas, chez Pimki, à l'époque, j'étais salarié chez Pimki, on a fait un test de personnalité qui, moi, m'a permis de prendre conscience que Kat était, fonctionnait juste fondamentalement différemment de moi. Et alors qu'avant, j'avais tendance à plaquer des jugements de valeur, en fait, tu vois, sur... comme elle dit, en fait, tu vois, encore aujourd'hui, elle dit qu'elle est maniaque. Moi, je trouve pas qu'elle est maniaque, en fait. Pour moi, elle est juste hyper attentionnée. Elle a besoin que son environnement soit rangé, enfin, tu vois, d'essayer d'y mettre des trucs positifs. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit et de me dire, OK, en fait, elle fonctionne pas du tout pareil que moi. Ouais. Et ça m'a permis de prendre conscience qu'on n'était pas câblé de la même façon et que c'était pas grave. Et que plutôt que de chercher à vouloir toujours nous fighter sur des trucs sur lesquels on n'était pas d'accord.
C'est-à-dire que l'un ou l'autre a raison.
Oui, voilà, aussi, exactement.
C'est ça fait. Enfin, en tout cas, moi, ça a vraiment été. Donc, on était jeunes. Hein. Moi, ça m'a vraiment permis de grandir à ce sujet-là et de me dire, OK, en fait, juste, elle pense pas du tout pareil que moi. C'est pas juste, elle est relou. Elle est juste, elle a besoin d'avoir son environnement beaucoup plus rangé que moi, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, après, ça reste. Enfin, pour moi, le secret, quand même, ça serait la communication. Oui. Je pense que quand on
Je pense que tout le monde va dire ça.
Non, ouais, non,
je
ne
sais pas.
Mais
après, il y a le dire et le faire.
C'est vrai.
C'est facile de le dire parce qu'effectivement, ça paraît facile.
Mais communication, du coup, si, juste du coup, en dernière question, ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire justement prendre le temps de discuter, mais de tout.
De dire quand on va bien, de dire quand on ne va pas bien. Quand c'est on ça. S'engueule, vous restez quand même...
D'apprendre à s'ouvrir et à... je pense qu'il faut... je ne vais pas dire on doit à l'autre, mais quelque part, il faut dire la vérité. C'est important. Moi, j'ai tendance à vouloir que tout soit beau, mignon et tout ça. Depuis que j'ai appris à dire ce que je pensais vraiment, ça m'a facilité la vie quand même. Donc, je pense qu'il faut communiquer avec bienveillance, mais communiquer sur ce qui va et sur ce qui ne va pas.
Et pour moi, il y a aussi une question de mettre l'ego au bon endroit dans le couple. C'est que j'ai jamais eu, moi, de problème d'ego par rapport à Kat. J'ai pas besoin de la dominer, j'ai pas besoin de... On n'en a pas parlé, mais en fait, pendant 7 ans, elle a fait fonctionner tout le foyer, c'est-à-dire que je me suis pas payé, moi, pendant 7 piges. Alors, c'était un truc qu'on avait décidé ensemble. Aujourd'hui, mademoiselle serait pas là si Kat n'avait pas accepté de financer l'intégralité du foyer pendant tout ce temps-là. Et c'est vrai que j'ai des copains qui voyaient ça comme « Putain, en fait, ta femme, elle est en train de... »
Elle tient les culottes, quoi.
Voilà, et comment tu le vis et tout. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Au contraire, pour moi, c'était plutôt un truc de partenariat, de partenaire, tu sais. Pour moi, Kat est vraiment une vraie partenaire au meilleur sens du terme. Et même si parfois ça te saoule un peu que je mette en avant cet aspect porte-monnaie, pour moi, c'est un vrai truc fou d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à tenir dans le temps et puis d'avoir réussi à croire dans mon projet. Et je sais qu'il y a certains couples parfois qui ont tendance à vouloir, au sein du couple, il y a une dynamique un peu d'ego et de vouloir dominer l'autre ou être plus fort que l'autre. Et ça, en tout cas, moi, à mon niveau, j'ai jamais eu besoin de ça, en fait.
Oui, non, c'est vrai que c'est aussi sans doute un des secrets de la longévité, on va dire.
Qui n'est pas un mot magnifique. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était passionnant, franchement, j'ai appris plein de choses. Et je vous souhaite encore beaucoup, beaucoup d'années devant vous de couple.
On espère, mais en même temps, on verra. On ne se met pas de pression.
Vous avez raison. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Cet épisode de Chalalove accueillait Kat et Fab. Vous retrouverez Fabrice sur le site de Mademoiselle, bien sûr, Mademoiselle avec un Z et non pas un S, mais également via son compte Instagram personnel au nom de Fab Florent, F-A-B Florent, tout attaché. Ou aussi via son podcast d'ailleurs, Histoire de Daron. Vous pourrez retrouver cet épisode et le lien vers les contacts de Kat et Fab sur le site de Gémio, gémio.com, G-E-M-Y-O.com, rubrique podcast. Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités, nous proposer votre histoire d'amour, suivez-nous sur Instagram au pseudonyme Gémio, G-E-M-Y-O, et racontez-nous à votre tour votre histoire avec le hashtag ShallLove. Enfin, si vous voulez nous donner vous aussi un peu d'amour, que le podcast vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes, ça nous aide beaucoup. Mille merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.